Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Marion Jeanbrun. Bonjour.
Bonjour.
Marion Jeanbrun, vous êtes ici pour annoncer les 40 ans de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, un événement qui aura lieu le 23 mai. Ça se passera à Montélier, à la salle Marcel Pagnol, à partir de 9h30 jusqu'en soirée à 23h. Donc ce sera un moment aussi pour, en plus des conférences, de découvrir du théâtre d'improvisation, un concert, des stands d'infos, de la sérigraphie, du food truck pour se substanter, de la buvette pour se rafraîchir et aussi un espace pour enfants. Donc ça laisse libre cours aux parents de pouvoir vaguer dans cette journée. Alors pour vous, on peut peut-être commencer par demander ce qu'est l'origine de la CRIRAD.
Alors la CRIRAD, donc, elle s'est créée suite à l'accident de Tchernobyl, donc par des citoyens et citoyennes de Drôme et d'Ardèche qui se sont posés des questions sur le fait qu'en Italie et en Allemagne, des mesures de protection des populations étaient prises, alors qu'en France, on nous assurait qu'il n'y avait aucun problème du fait de des retombées de Tchernobyl. Donc, ces citoyennes et ces citoyens ont fait des prélèvements, les ont envoyés à un laboratoire d'analyse sur Lyon, à l'Université de Lyon, et ont découvert en fait que les retombées étaient telles qu'il était nécessaire qu'on prenne des mesures de protection des populations. Donc, c'est comme ça que l'association s'est créée et depuis, donc, elle travaille sur informer les populations par rapport aux risques liés à la radioactivité.
À la suite de cet épisode, hein, qui, je suppose, s'est éternisé puisque la radioactivité fait long feu en général.
Alors, la radioactivité, donc, lors de l'accident de Tchernobyl, il y avait plusieurs radionucléides qui ont été rejetés dans l'atmosphère. Certains ont une période relativement vite, c'est-à-dire que leur activité diminue rapidement. Et donc ceux-là, aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Mais il reste donc le césium-137 notamment, qui a une demi-vie de 30 ans. Donc lui, il est encore présent aujourd'hui dans les sols, puisque au bout de 30 ans, il y a seulement la moitié de la quantité déposée lors de Tchernobyl qui a disparu.
Et comment se procèdent ces contrôles? Vous avez vous-même vos propres centres de recherche et de laboratoires?
Alors oui, la CRIRAD, peu de temps après sa création, elle a réussi, grâce à Michèle Rivasi, donc, qui était présidente à l'époque et qui est intervenue dans une émission de Michel Pollack sur une... Alors je ne sais plus le nom, je crois que c'était Antenne 3 à l'époque. Elle est intervenue dans cette émission pour présenter les résultats qu'avait obtenus la CRIRAD et qui démontraient qu'il y avait une contamination. Et suite à ça, on a réussi à obtenir suffisamment de fonds pour investir dans nos propres appareils de mesure et faire nos mesures. Donc à l'époque, c'était sur Montélimar qui était le premier laboratoire. Donc il a avant été à Pont-de-Barré, puis après Montélimar, avant d'arriver à Valence.
Donc le siège de la CRIRAD est à Valence.
Oui, aujourd'hui, c'est à Valence que nous avons nos locaux, où nous avons notre laboratoire et l'association.
Ainsi, vous êtes à peu près une dizaine de personnes à agir au sein de cet établissement.
Alors, on est une dizaine de personnes salariées, avec pour moitié une équipe qui est plutôt laboratoire, et puis une autre partie de l'équipe qui s'occupe de la gestion des adhérents, de la communication et de tout ce qui est administratif. Et on a également une équipe de bénévoles, donc il y a un conseil d'administration qui prend des décisions en accord avec ce qui se décide lors des assemblées générales. Voilà, donc on est équipe salariée et bénévole à œuvrer pour les missions de la CRIRAD.
Les bénévoles sont-ils aussi partie prenante, notamment peut-être celle d'être une présence sur un quadrillage territorial, de manière peut-être dotée de détecteurs à signaler des irradiations par exemple?
Alors on a une partie de nos bénévoles, adhérents et adhérentes, qu'on a formés qui sont formés par la CRIRAD pour réaliser des mesures radiométriques et des prélèvements. Donc c'est un réseau qu'on a constitué suite à l'accident de Fukushima, qui s'appelle le réseau CIVIRAD, pour Réseau Citoyen de Vigilance à la Radioactivité, qui compte une trentaine d'adhérents et d'adhérentes qui sont localisés à proximité d'installations nucléaires, donc à peu près toutes les centrales nucléaires, sauf celle de Flamanville et de Nogent-sur-Seine, où on n'a pas de personne référente. Les autres centrales, on a une personne qui peut être amenée, si on le lui demande, à intervenir sur place pour réaliser des mesures ou faire des prélèvements de sol, d'eau de pluie ou de couvert végétal.
On peut peut-être aussi préciser ces domaines d'intervention, en plus de la détection. Est-ce que vous êtes aussi à être consulté aussi pour des services ou des entreprises liées au nucléaire?
Alors, on n'intervient pas pour les entreprises liées au nucléaire. Par contre, donc notre laboratoire propose des prestations. Donc, en général, ça peut être des particuliers, ça peut être aussi des entreprises. On a notamment des particuliers qui peuvent, suite à l'accident de Fukushima, par exemple, on a eu pas mal de sollicitations de personnes qui s'inquiétaient de consommer des produits en provenance du Japon et qui nous les ont fait analyser. C'était le cas il n'y a pas si longtemps de ces charbons qu'on met dans les carafes d'eau pour purifier l'eau. Il y en a certaines qui sont produites à partir de charbon de bambou qui viennent du Japon. Et donc, on a fait, par exemple, des mesures sur ce type d'échantillon encore récemment. Mais voilà, on peut vraiment analyser toutes sortes d'échantillons et répondre aux inquiétudes des citoyens et citoyennes, ainsi que des entreprises.
C'est là, justement, où je posais ma question. Du fait, par exemple, de ces analyses du charbon issu du Japon, est-ce que ça s'est révélé positif ou alors plutôt négatif? Et dans le cas du positif, est-ce que vous êtes amené à donc ainsi informer les services compétents?
Alors, les mesures qu'on a faites sur ces échantillons, on a détecté du césium-137. Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un scénario, un calcul, en considérant si toute la quantité de césium-137 se retrouvait dans l'eau et que la personne consommait quotidiennement cette eau à hauteur de 2 litres par jour, est-ce que ça infligerait une dose qui dépasse la réglementation? Donc la réglementation, elle est de 1 millisievert par an, c'est les normes officielles. Et notre calcul conduisait à ce que les doses reçues par les personnes soient inférieures. Donc on a jugé pas nécessaire d'alerter sur ce type de produit.
Donc il y a les aspects scientifiques avec ce laboratoire, sanitaire, c'est-à-dire lié justement à la consommation d'eau, par exemple.
Alors oui, on a fait par exemple une grosse étude sur... Le tritium, les normes de potabilité du tritium sont élevées, donc on considère qu'en dessous de 10 000 becquerels par litre de tritium, on peut consommer une eau, alors que au bout de 10 becquerels, en fait, on peut considérer déjà qu'on a une eau contaminée par du tritium, car normalement, dans la nature, on ne devrait pas retrouver ces quantités-là. Donc on a fait un gros travail pour dénoncer ces seuils très élevés qui finalement ne conduisent pas à protéger de manière correcte la population, parce qu'il y a des biais dans les calculs, des arrondis, des approximations, des risques qui ne sont pas considérés de manière suffisante par rapport à ce qu'on fait pour, par exemple, les éléments, les produits chimiques, les polluants chimiques. Donc voilà, donc la CRIRAD a fait tout ce travail aussi de dénonciation des normes de la réglementation, des seuils imposés par la réglementation.
Et puis, donc, vous avez développé aussi l'aspect juridique. Cela vous permet quoi, justement, par rapport à cette administration ou à une procédure judiciaire, par exemple?
Alors, dernièrement, on a fait assez peu de procédures juridiques. Il y a eu, à l'époque, la CRIRAD a porté plainte contre l'État, justement, pour le défaut de protection des populations liées à Fukushima. Et elle était accompagnée, à l'époque, de l'association des malades, de l'association française des malades de la thyroïde, donc où il y avait plusieurs personnes qui avaient subi développé des maladies de la thyroïde et qui ont porté plainte pour ce défaut de protection. Malheureusement, la plainte n'avait pas abouti et donc oui, nous avions perdu ce procès.
Pour cette journée, trois conférences seront proposées, une en matinée.
Une.
Il s'agira de la thématique de Tchernobyl avec comment les manquements des autorités ont donné naissance à la CRIRAD. Vous en avez commencé à nous expliquer. Et quelles sont les conséquences locales de la catastrophe? Il avait été établi donc un rapport de ces recherches. Est-ce qu'elles avaient mis le doigt sur des dangers à venir? Mais est-ce qu'il y a eu justement une mise en articulation des services pour essayer de trouver des solutions?
Alors la CRIRAD donc sur Tchernobyl, elle s'est beaucoup intéressée à ce sujet donc au moment de sa création et même par la suite, puisque le gros de son travail qu'elle a effectué dans les premières années, ça a été de démontrer l'ampleur de la contamination en France. Donc pour cela, elle a établi une cartographie avec des carottages de sol donc sur 50 cm de profondeur où on a réalisé des prélèvements tous les 5 cm pour reconstituer vraiment le profil de sol et la migration, évaluer la migration du césium au sein du sol. Donc ça a été réalisé. Donc il y a eu plus de 260 prélèvements de sol réalisés pour la plupart sur la partie est de la France, puisque c'est cette partie-là qui a été la plus contaminée. Donc on considère qu'il y a vraiment une bande de l'Alsace à la Corse qui a été principalement touchée par ces retombées, plus que la partie ouest où il y a eu moins de précipitations lors du passage de la contamination. Donc c'est vraiment, voilà, on a pu démontrer grâce à tous ces carottages de sol que les valeurs données par les institutions officielles étaient sous-évaluées, qu'ils prenaient des moyennes, voire des minimums, au lieu de donner vraiment les valeurs maximales pour qui nécessitaient qu'il y ait des protections. Les mesures de protection prises. Donc voilà, la CRIRAD a vraiment œuvré à faire reconnaître l'intensité des retombées et à contrer le discours officiel.
Donc à 10h, Bruno Charéron animera cette conférence, lui-même étant conseiller scientifique et ancien directeur du laboratoire de 1993 à 2023 et auteur du livre Nucléaire, une énergie vraiment sans danger. Une question donc. Avec lui donc seront présents Kate Brown, qui est historienne, professeure au Massachusetts Institute of Technology de Boston. Il y aura aussi Corinne Castagnier, responsable réglementation et radioprotection, salariée à la CRIRAD. Thierry Constantin Blanc, ingénieur environnement. Christian Courbon, ancien salarié de la CRIRAD. Roland Desbordes, ancien président de la CRIRAD. Et Alexei Nesterenko, directeur de l'Institut Belrad, qui est en quelque sorte concerne la Biélorussie notamment.
Oui, tout à fait. Donc l'Institut Belrad possède son propre laboratoire et réalise aussi des analyses de végétaux, d'aliments pour suivre un peu l'évolution de la contamination dans les denrées alimentaires.
C'est un organisme situé en Biélorussie ?
Tout à fait, c'est un laboratoire qui est en Biélorussie et en parallèle de ces analyses sur les aliments, ils ont également mis au point des fauteuils dans lesquels ils analysaient le corps des enfants, le corps entier, c'est-à-dire qu'ils faisaient passer chaque enfant pour mesurer la radioactivité que les enfants avaient ingérée et puis faire un suivi comme ça en leur proposant des régimes, des denrées non contaminées et voir si leur radioactivité interne diminuait avec le temps en mangeant des aliments non contaminés.
Et ça même est un organisme qui a été créé par l'Union soviétique à l'époque ou c'est un organisme indépendant ?
C'est un organisme indépendant, mais je ne sais pas vous préciser plus les créateurs de l'époque. Ouais.
Ensuite, à partir de 14h, deuxième conférence avec cette question, quelle mission la CRIRAD peut-elle remplir en cas de catastrophe? Ça sera animé par Marion Jeanbrun, donc vous-même. Il y aura aussi Christian Charéron, Christian Courbon aussi, Julien Sirène, co-directeur de la CRIRAD et responsable du service radon, et Kurumi Sudita, chercheuse franco-japonaise, retraitée du CNRS et fondatrice de l'association Nos voisins Louatin 3.11. Alors, quelles seront les questions à laquelle vous vous attendez à répondre?
Alors, par rapport à Fukushima, donc Disons, par rapport à cette thématique, l'idée est de revenir sur l'accident de Fukushima. Donc, qu'a fait la CRIRAD sur place, donc parce qu'il y a eu une mission dans les quelques semaines qui ont suivi l'accident, où Bruno Charéron et Christian Courmont se sont rendus sur place. Donc voilà, quelle a été la mission de la CRIRAD sur place? Qu'est-ce qui a été fait ensuite sur le territoire français pour évaluer la contamination, enfin le passage de la contamination en France? Donc il faut savoir que la CRIRAD est équipée d'un réseau de balises de surveillance de la radioactivité dans l'air. Et lors de l'accident de Fukushima, nous avons pu mesurer grâce à ce dispositif le passage de la contamination, donc qui n'avait rien à voir avec la contamination de Tchernobyl. Il n'y a pas, là, pour le coup, il n'y avait pas de mesures particulières à prendre en France, mais nous avons pu mesurer le passage de la masse d'air contaminée. Ensuite, donc, nous parlerons un peu de la situation sur place encore aujourd'hui, donc avec l'aide de, enfin, avec l'intervention de Kurumi Sugita. Et ensuite, nous parlerons de ce qu'a mis en place la CRIRAD pour faire face à une nouvelle catastrophe nucléaire. Donc, quels sont les dispositifs que nous avons mis en place pour être prêts en cas de catastrophe?
Ces missions sont-elles donc initiées par vous-même ou alors est-ce qu'il y a aussi en quelque sorte un partenariat avec les pouvoirs publics sur les procédures à envisager ou peut-être à créer?
Alors non, nous ne sommes pas directement en lien avec des institutions. Par contre, pour le réseau de balises de surveillance de la radioactivité de l'air, nous avons des subventions des collectivités. Donc c'est le cas par exemple de la Drôme qui nous finance, de l'agglomération de Valence-Romans, de Montélimar, d'Avignon. Donc ils nous aident à financer ce réseau de balises. Et ce réseau de balises, en cas de catastrophe, nous permettra voilà, d'alerter et d'informer sur la réalité des niveaux de contamination en France. Donc ce réseau, on a nos balises qui vont une balise sur Avignon et donc la plus lointaine est à PH de Roussillon et on a également des sondes de mesure de spectrométrie gamma dans l'air, donc c'est un dispositif un peu différent, qui sont disposés à Genève, Grenoble, Meyzieu et Givors. Donc voilà, on quadrille vraiment le sud-est assez précisément.
Donc, il n'existe pas d'autres structures telles que la vôtre sur l'ensemble du territoire français.
Alors, il existe une institution officielle qui s'appelait l'IRSN jusqu'à il y a peu et qui a été fusionnée avec l'ASN et qui s'appelle maintenant l'ASNR, qui dispose, elle, d'un réseau, mais qui n'a pas les mêmes équipements que nous. Donc, eux, ils font de la spectrométrie, ils font de la détection rayonnement gamma. Donc, ça donne un premier niveau d'information et normalement, ils seront eux aussi en mesure d'alerter la population si jamais il y avait un incident et une contamination de l'air en France.
Cette fusion dont vous parliez à l'instant avait soulevé quelques inquiétudes. Est-ce que celles-ci se sont estompées depuis?
Alors non, nous on est toujours très inquiets du fait de la fusion de ces deux entités parce que donc ce qui se passait habituellement, c'est que l'ASN faisait appel à son expert, donc qui était l'IRSN, et lui commandait des études, des expertises afin de pouvoir juger si, bah, par exemple, le dossier de l'EPR était suffisant ou pas. Et aujourd'hui, voilà, on voit que c'est tout mélangé et que bon, le but était d'accélérer les procédures pour permettre de construire plus rapidement de nouvelles centrales, de nouveaux sites d'enfouissement de déchets, etc.
Et je voulais savoir, est-ce qu'il existe un protocole justement par rapport à cette détection de radionucléides, que ce soit international ou national, ou alors est-ce que vous êtes plutôt un fer de lance et donc peut-être seul aussi dans cette lutte?
Alors, il existe des normes qui précisent comment réaliser des prélèvements de sol pour faire des mesures de radioactivité. Donc, nous, on se conforme à ces normes et on dispose d'agréments qui sont accordés par l'ASNR, au cours desquels, chaque année, on réalise des exercices d'intercomparaison, c'est-à-dire on nous envoie un échantillon d'intercomparaison qu'on va mesurer et que d'autres laboratoires mesurent, et il y a comme ça une comparaison des résultats. Ce qui nous permet de disposer après d'agréments. Donc, on est reconnu même par l'expert officiel qui est la SNR pour nos mesures.
Donc cette deuxième conférence se déroulera de 14 à 16 heures et nous arrivons à la troisième avec cette question. Comment la CRIRAD révèle-t-elle les impacts de l'industrie nucléaire? Ça sera de 16h30 à 19h. Ça sera animé par Julien Sirène. Il y aura en plus Al-Mustafa Al-Hassen qui est ancien président de l'ONG Aguirin Man à Arlit, c'est dans le Niger. Il y aura aussi Didier Lator, administrateur à la CRIRAD et membre du collectif Vigilance Malvésie. Michel Leclerc, ancien salarié et aussi de l'usine de conversion du uranium de Malvésie. Et voilà, donc cette troisième table ronde permettra peut-être d'informer le public des procédures qui sont impliquées ou qui sont mises en branle lors de ces impacts.
Alors oui, l'idée est donc de commencer par l'impact des sites miniers, donc en faisant intervenir notamment Al-Mustafa Al-Hassen, qui est donc membre de ancien président de l'association Aguirin Man et qui a lutté contre le projet de mine d'uranium au Niger. Donc aujourd'hui, cette mine n'est plus exploitée par Orano, mais par contre, il y a toujours sur place des tas de résidus miniers qui sont disposés à l'air libre et qui, lors des forts vents, les particules radioactives peuvent être disséminées dans l'atmosphère et impacter les populations qui se situent à proximité. Ces piles de résidus, lorsqu'il y a des pluies, l'eau se charge en radioactivité et va avoir pour effet de contaminer les nappes qui servent aux populations pour leur alimentation en eau.
Et à l'heure actuelle, quels sont les remèdes amenés pour cette problématique?
Alors, ce que propose Orano, enfin ce que devait mettre en place Orano, mais qui du coup est retardé du fait de la géopolitique au Niger et la prise de pouvoir par une junte militaire, c'était de recouvrir ces résidus miniers d'une couche de terre stérile, c'est-à-dire qu'il ne serait pas radioactif, pour éviter que ce soit la couche de résidus radioactifs qui soit emportée par le vent. Aujourd'hui, ces travaux ne sont pas faits, donc aujourd'hui encore, les populations sont soumises à cette dissémination de radioactivité. Mais pour la CRIRAD, le mieux aurait été de ne pas créer ces déchets, quoi.
Alors ça, c'est le résultat de l'abandon d'une industrie. Et il y a aussi l'usine de conversion d'uranium de Malvésie. Alors, quelle est la problématique?
Alors, l'usine de conversion de Malvésie, donc c'est la première étape pour le traitement de l'uranium qui vient des mines et qui après est destiné aux centrales nucléaires. Ce qu'on a mis en évidence, nous, c'est que en bordure de site, on arrive à mesurer le rayonnement lié au stockage des fûts d'uranium qui sont stockés sur le parc. Et il y a eu également, par le passé, des débordements de bassins de stockage où ils stockent des résidus de leur process qui ont débordé et qui, du coup, ont contaminé l'environnement autour de l'usine et qui ont eu un impact sur les populations voisines.
Voilà, donc ça, ce sont les trois conférences. Dans la journée aussi, il y aura la présence d'associations. On peut noter celle de la Confédération Paysanne, les Artisans du Monde, les Amis de la Terre et la radio Méga qui sera aussi présente, peut-être pour établir un plateau radiophonique en direct, je crois.
Oui, tout à fait. Radio Méga fera une émission en direct de 13h à 14h au cours de laquelle ils intervieweront des intervenants et des intervenantes, des membres des associations pour faire un peu le lien entre leur problématique et la nôtre. Et également, ils intervieweront des personnes du public pour savoir un peu qu'est-ce qui les a motivés à venir assister à cette journée de 40 ans de la CRIRAD.
La Confédération Paysanne ou Artisans du Monde, les Amis de la Terre, sont des associations avec qui vous êtes en lien dans votre activité?
Pas forcément, non. C'est pour ça que c'était l'occasion aujourd'hui un peu de se faire connaître d'eux et de connaître un peu mieux leur mission à eux, parce qu'effectivement, on a assez peu de liens avec d'autres associations de protection de l'environnement.
Et surtout pour des producteurs en alimentation, il y a peut-être aussi cette inquiétude, et à savoir si leurs productions ne sont pas contaminées.
Oui, tout à fait. Ça avait été quelque chose qui avait été fait au moment de Tchernobyl. On avait reçu pas mal de demandes d'agriculteurs. C'est le cas, par exemple, d'un producteur de lait de Château-Double qui avait fait la démarche de faire analyser son lait avant de le vendre pour être sûr qu'il ne soit pas contaminé. Donc, c'est en cas de catastrophe, les producteurs, les agriculteurs seront bien sûr concernés, et ce sera intéressant pour eux de savoir que la CRIRAD existe et peut faire des analyses pour eux.
Il y a donc d'autres associations à laquelle vous proposez de venir. Et pour cela, est-ce qu'il y a un moyen pour celle-ci de vous joindre pour être présente?
Alors, si d'autres associations veulent être présentes sur notre village associatif, elles peuvent nous faire un mail à contact@crirad.org.
Et puis, il y aura votre propre stand, ça permettra de connaître cette activité opérée depuis 4 décennies. Et puis, il y aura aussi cette exposition nucléaire et eau, ça ne coule pas de source. Donc ça, c'est plutôt une exposition pédagogique, je crois.
Oui, tout à fait. Donc, on a mis au point cette exposition en 6 panneaux. Donc, le nucléaire et eau, ça ne coule pas de source, avec un premier panneau sur l'impact au niveau du réchauffement des cours d'eau. Le nucléaire réchauffe l'eau. Un autre panneau sur les rejets des installations nucléaires, comment les rejets vont polluer les nappes phréatiques, les cours d'eau et l'eau potable. Donc on termine cette expo par la contamination de l'eau potable en tritium.
Ce sont des panneaux qui peuvent être aussi proposés en exposition dans des établissements scolaires ou lors de forums ou d'autres rencontres.
Alors oui, tout à fait. Nous, on les présente régulièrement sur les salons et foires auxquels on participe, sur lesquels on tient des stands. En général, on présente l'exposition en complément d'une conférence sur le sujet, ce qui permet d'approfondir un peu les thématiques qui sont présentées sur les panneaux. On a également pu l'exposer à la médiathèque de Chabeuil dans le cadre de la semaine de la fête de la science en 2024. Mais si des établissements publics, des établissements de l'enseignement veulent présenter ces panneaux d'exposition à leur classe, c'est avec plaisir qu'elles peuvent nous contacter.
Tout au long de cette journée, il y aura des animations qui viendront rythmer la journée avec un atelier de sérigraphie, notamment de la petite agitée. Ça permettra de personnaliser un vêtement avec le logo des 40 ans de la CRIRAD. Il y a aussi un espace pour les enfants avec des jeux en bois et aussi donc une buvette et des food trucks pour se substanter. Et en soirée, à partir de 19h30, la compagnie Les Arsènes, elle proposera un spectacle de théâtre d'improvisation. Est-ce que vous en connaissez un peu la teneur ou ça sera à la surprise de tous?
Alors l'idée avec le théâtre d'improvisation, c'est qu'il se calque un peu sur la thématique du nucléaire. Donc on leur a envoyé déjà de la documentation pour qu'ils puissent un peu se familiariser avec ces notions assez complexes que sont la radioactivité. Et également, ils interviendront après chaque conférence, donc un petit moment détente après avoir parlé de ces sujets sérieux qui est la radioactivité. Donc les conférences durent normalement, en général, sauf celle de la... Enfin, 1h30, celle du début d'après-midi dure qu'une heure, suivent une demi-heure de questions et une demi-heure d'interlude de théâtre d'improvisation.
À partir de 21h, à la suite, donc Lady Chestnut Blues, un groupe de musiciens qui proposera quel style de musique? On imagine du blues?
C'est ça, du rock blues des années 70-80.
Voilà. Pour les auditeurs qui souhaiteraient en connaître plus, vous avez votre site internet, donc on peut le trouver facilement en tapant la CRIRAD sur un moteur de recherche avec CRIIRAD. Et puis, je crois que nous avons pu tout dire, bien que le sujet soit vaste, mais une demi-heure d'émission ne suffit pas pour en parler. Et donc, les auditeurs seront peut-être là pour découvrir des informations, en tout cas.
Oui, on espère avoir de nombreuses... une nombreuse fréquentation à cette journée.
Pour les associations désireuses d'être présentes, est-ce qu'il y a un contact pour elles?
Alors, vous pouvez nous contacter à l'adresse communication@crirad.org. CRIRAD, C-R-2-I-R-A-D.
Votre organisation, donc la CRIRAD, nécessite un soutien. Quelles sont les démarches possibles pour vous soutenir?
Alors, on est soutenu en majeure partie par des dons et des adhésions, donc ça représente 50% de notre budget de fonctionnement. Donc si les auditeurs et auditrices veulent adhérer ou donner à la CRIRAD, c'est tout à fait possible en se rendant sur notre site internet www.crirad.org.
Et pour finir, toutes vos études, recherches, sont-elles éditées, publiées? Ou alors est-ce qu'il y a une part d'informations que l'on peut trouver sur Internet?
Oui, tout à fait. Donc la CRIRAD, elle édite une fois, trois fois par an, un bulletin, bulletin trimestriel. Elle édite une publication trois fois par an sur les dossiers en cours. Donc là, par exemple, le dernier numéro parle de l'extractivisme et de la radioactivité. Donc ce bulletin est normalement en priorité destiné à nos adhérents et adhérentes qui peuvent le recevoir sous format papier. Et par la suite, nous le mettons en ligne pour que ce soit disponible à tous, tous et toutes. Donc sur notre site internet, on peut retrouver les dossiers sur lesquels la CRIRAD a récemment travaillé.
Marion Jeanbrun, je vous remercie de nous avoir donné du temps pour cette émission et pour nous parler donc de la CRIRAD et de ses 40 ans qui seront fêtés le 23 mai à Montélier à la salle Marcel Pagnol.
Ben merci beaucoup.
Et je vous remercie aussi. Bonne fin de journée.
Merci, au revoir.